Daniel revient.
Ils vont dans la chambre de Guillaume. Kalia se soit sur le rebord du lit. Guillaume sort le livre et le lui montre.
En lui montrant le livre, il lui dit « Faut arrêter de rêver et voir la vérité. » Kalia lui dit « Mais cela fait longtemps que l'on a arrêté de rêver, depuis l'invention de la science ou depuis l'esprit scientifique. » La science, c'est la recherche de la vérité. Guillaume lui dit, pour le moment, il se passe des choses impossibles. Et puis, qu'est-ce que c'est cet soleil? Est-ce que nous rêvons? Comment est la vie? Voilà la question. Kalian lui dit, bien, nous verrons plus tard. Mais pour le moment, j'ai envie, c'est d'être contre toi et de jouer avec toi. Il se penche vers Guillaume. Guillaume se laisse aller. Après avoir embrassé Galien, il le déshabille. En faisant l'amour, Galien se dit « Aimer ». Est-ce réel? Est-ce que la personne que j'aime est réelle? Est-ce que le monde est vrai? Mais quelle belle illusion lorsque l'on touche mon corps, mais sans mes vêtements, lorsque je le touche aussi. Quelle joie, quel plaisir à le toucher, quel rêve exquis. J'aimerais jamais me réveiller. Manger? Est-ce rêver aussi? Est-ce que tous les plaisirs sont des rêves? Il se pose toutes ces questions. À Paris, dans son bureau. Allô, j'aimerais c'est que monsieur Danfort puisse venir me voir de toute urgence à mon bureau. Merci.
Entrez. Entrez, monsieur Danfort. Monsieur le Président, venez vous asseoir.
Et lui raconte tout, le livre et tout.
Pourquoi est-ce que le groupe Jeune Tout fait-il rêver les gens, le monde? Comment le fait-il? Et depuis quand? C'est dit de vraies explications.
Danfort sourit et lui dit « Vous ne pouvez pas croire ce genre de choses. C'est du roman feuilleton. Personne n'a un tel pouvoir. Et puis, à quoi cela le servirait-il? On ne peut pas diriger le monde seul. Et si on faisait rêver tout le monde, qui s'occuperait de faire les choses? La Belle au Bois Dormant vivait dans un monde de broussailles où tout était mort. » Kalia lui dit « Je ne dis pas endormir les gens, mais les faire rêver, éveiller, et en faisant croire à des choses, comme s'ils étaient des esclaves, que l'on pourrait faire croire qu'ils vivaient au paradis, alors qu'ils seraient en enfer et travailleraient pour le diable. » L'enfant lui dit, c'est impossible. Et la preuve, nous faisons des chimères et des mutants pour avoir des hommes à notre service.
Alors que si nous avions l'espèce humaine, n'aurions pas besoin de ça. Et elle lui dit, pas sûr. Et le livre alors? Quel livre?
Le petit livre rouge,
l'enfant lui dit.
La Chine avait le sien, nous avons le nôtre, alors.
Kalian lui dit, soyons sérieux, ce livre qui a été trouvé au château et qui parle, qui pose des choses, de ces choses, qui pose de ces questions.
L'enfant lui dit, je ne vois pas, peut-être un rêveur ou Karine. Elle avait des idées bizarres et rêvait beaucoup. Elle aimait les romans de science-fiction.
Kalian lui dit, la pauvre Karine a bon dos. Et de quoi est-elle morte déjà?
L'enfant lui dit, je m'en souviens plus, d'arrêt du corps ou de maladie étrange.
Kalian lui dit, comme sa vie. Eh bien, si un jour vous voulez vraiment me parler des sept soleils
et tout, je serai toujours à votre disposition.
Pour entendre tout ça,
l'enfant lui dit, laissez toutes ces histoires dormir debout et occupez-vous de nos découvertes scientifiques qui sont des choses vraies et plus passionnantes que ces histoires à la rocambole. Nous sommes des hommes d'affaires et pas des fous illuminés. Le monde se domine par la science et non par des rêves. Ayez confiance en nous et vous verrez ce que nous pouvons faire ensemble.
Vous n'avez rien d'autre à me dire, monsieur le président?
Non, vous pouvez disposer.
Bien, monsieur le président.
Et d'enfant le quitte.
Guillaume et Galien sont dans la chambre de Galien, assis sur le lit. Galien pense, comment peut-on rendre réels des rêves de telle sorte que l'on croit que c'est la vie même? Guillaume lui dit, en maîtrisant tous nos sens. Galien lui dit, tu as raison, car le cerveau croit, réagit d'après ce que les sens lui apprennent comme information. Si on fait en sorte à ce que le toucher ressente une brûlure, le cerveau ressentira la brûlure et agira comme il se doit, c'est-à-dire donnera les ordres et les informations qu'il faut quand il ressent cette information. Guillaume lui dit, l'on peut, en plus de la maîtrise de l'information, former le cerveau à réagir de certaines façons pour chaque cas qu'il a, la peur du feu, etc. Le besoin, le désir de sexe devant une autre personne d'un tel type. En premier, l'on forme le cerveau de réagir de certaines façons d'après les informations qu'il reçoit. Le cerveau, connecté à un ordinateur qui lui donnera des informations visuelles, du toucher, lui, odorat. À chaque sensation, il recevra une décharge électrique qui sera guidée soit vers la douleur pour lui donner la douleur, soit vers le plaisir pour lui donner le plaisir. À force, il reconnaîtra ses informations sensorielles et réagira de lui-même avec répulsion ou joie. Car dans sa mémoire, chaque information représentera soit du plaisir, soit de la douleur. Puis, on affinera la chose. Après, l'on affine la chose avec en plus le verbe et le jugement, c'est-à-dire une certaine liberté pour maintenir les instincts. Il y a le feu, mais on ne doit pas paniquer, ce n'est pas grave, on peut l'éteindre facilement. Il y a le feu, je me dis qui l'a allumé, pourquoi, etc. Une fois que le cerveau est bien programmé,
à l'information d'après les sens, réaction d'après ses sens, réflexion avec ces informations. L'on a programmé tout ça avant de livrer le cerveau libre et que l'on dirige. Les sens, que c'est nous qui informons les sens, tous les sens. L'on sait comment le cerveau va réagir et l'on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui, que l'on ait une table, une bouteille, un poisson, que la terre est une caoutchouteuse qui rebondit tout le temps, etc., etc. N'importe quoi, n'importe qui, tout devient logique et vrai parce que notre cerveau le dit et qu'il ne sait que ça. S'il a une autre réalité, il ne peut pas le savoir parce qu'il a été connecté, ses sens ont été connectés là, comme ça. Donc la vie peut être un rêve, mais les rêves, eh bien, c'est comme le reflet plus ou moins de la vie que l'on voit, mais c'est le reflet de la vie que l'on croit voir comme elle est. Le rêve nous montre une vie un peu différente de la vraie vie, mais avec les mêmes informations que celles de la veille. Un objet, par exemple une table, a la même signification dans la veille que dans le rêve. Il se peut qu'il y ait un groupe qui gère tous nos sens, mais où, qui est-il et que veut-il et pourquoi gère-t-il nos sens? Et si gère nos sens, nous ne pouvons pas le trouver, nous ne pouvons pas le savoir. Et pourquoi? Puisque nos sens sont gérés par un groupe, pourquoi est-ce que nous savons que nous sommes guidés, que nos sens sont guidés? Peut-être est-ce qu'un membre du groupe veut nous libérer de sa surveillance? Mais est-ce vrai tout ça? Pourquoi est-ce que ce serait pas un rêve et que la réalité est-ce ce que nous ressentons et voyons? Comment le savoir? Si tous nos sens, le cerveau, sont programmés et connectés, nous ne pourrons jamais connaître la réalité, à moins que tout se dégrade chez le connecteur. Même si le cerveau a été programmé, habitué à réagir d'une certaine façon et de voir, entendre, sentir, toucher d'une certaine façon, si cela lui a donné un entourage autre que celui qui était programmé, il ne peut réagir ou deviendra fou. On continuera à voir les choses comme avant, mais avec la capacité de décrypter ce que nos sens lui apporteront comme information. Un ordinateur programmé pour certaines choses est incapable de déchiffrer autre chose. Le cerveau, les sens, c'est la même chose. Le cerveau humain a été programmé durant des milliers d'années de vie. L'intelligence humaine, durant des milliers et passé par là, de famille tribale, loi, roi, Dieu, nation, dialogue, science, autojection, république, industrie, autodiscipline, liberté, collectivité. Et le cerveau humain, tous les cerveaux humains, toutes les civilisations passent par le même système d'apprentissage, ce qui prouve que nous voyons la vie de la même chose, de la même façon, nous réagissons tous pareil. Le parcours de toute civilisation se fait de partout, comme pour l'éducation d'un bébé. Galien lui dit, j'ai pas très bien compris, tu peux expliquer ? Guillaume lui dit, ben voilà, c'est tout simple. Si un cerveau a été éduqué pour pour voir la vie d'une certaine façon, été éduqué par ses sens et voir la vie d'une certaine façon, si d'un seul coup on change d'univers de vie, mais qu'on laisse l'éducation de ses sens pareil, le cerveau deviendra fou. Il ne comprendra rien à ce qui l'entoure. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas les codes qu'il va recevoir. Les codes de ses sens, les informations de ses sens qu'il va recevoir. Il ne comprendra pas l'univers qui va l'entourer. Parce qu'il aura été programmé pour comprendre certaines informations. Galien lui dit, cela peut prouver aussi c'est qu'une robotisation et une connexion du cerveau peut être faite, et le cerveau peut recevoir, tous les cerveaux peuvent recevoir toutes les mêmes informations. Guillaume lui dit, des ondes qui enverraient des informations de nos sens à tous nos sens, ces ondes proviendraient d'un laboratoire immense qui pourrait conduire le destin du monde, des humains. Le destin tirerait la ficelle de nos sens. Peut-être la ficelle serait remplacée par des ondes télécommandées et nous ferait voir le monde comme il voudrait. Galien lui dit, nous sommes des millions de personnages qui jouent une pièce qui dure, et pour la jouer, l'on se réveille, on nous réveille, on nous remplace par d'autres personnages. Guillaume lui dit, mais pour quel public ? Galien lui dit, tantôt nous serons publics, tantôt personnages, acteurs. Tantôt public, tantôt acteur, un rôle qui convient parfaitement à l'être humain très narcissique. Mais qui dirige tout ça ? Quel est le metteur en scène ? Guillaume lui dit. Ça ne peut être que Dieu, Galien lui dit. Peut-être aidé du diable. Il baille et dit. J'ai discuté. Allons marcher un peu. Guillaume lui dit. Le jeu de lui est aussi pas mal. Pour se détendre. Galien lui dit, tu y prends goût. Guillaume lui dit, tu sais, lorsqu'on me touche, Galien lui dit, je le sais, le cerveau réagit d'une certaine façon. Alors on va voir. Et il fonce sur lui et le fait basculer sur le lit.
et le lundi matin, il repart pour Paris. Lundi après-midi, dans son bureau, Gallien va convoquer Danfort. Il prend son téléphone pour faire le numéro à la secrétaire. Prévenir la secrétaire. Allô ? Dites à M. Danfort que je veux le voir. Bien, je l'attends. C'est urgent. Merci. Cinq minutes plus tard, on a sonné à la porte. Gallien regarde sur le petit écran de contrôle qui est à son bureau. Entrez, Danfort. Entre, Danfort. Entrez, venez vous asseoir.
Bien, monsieur.
Gallien lui dit « Voilà, j'ai pensé à un projet qui pourrait intéresser le monde entier. C'est que l'on puisse voir, grâce peut-être à des lunettes ou autres, le monde tel qu'il est. » L'enfant le regarde bien et lui demande
« Pourquoi faire ?»
Gallien lui dit « Pour voir la réalité. » L'enfant lui dit
« Quelle réalité ? Et pourquoi faire ?» Le cerveau d'une fourmi ne peut pas voir comme le cerveau d'un lion. Pour eux, le monde est différent. Pour les humains, c'est la même chose. Le cerveau humain est programmé et l'on ne peut pas aller au-delà.
Gallien lui dit « Essayons tout de même. »
L'enfant lui dit « C'est impossible, même avec des lunettes spéciales. L'on verrait tout de même avec notre cerveau. Chaque cerveau de chaque espèce déconnecte avec ses limites. Il faut que le cerveau puisse lire ce que les sens lui donnent comme information. Si on donne une image trouble qui bouge tout le temps, où chaque chose est une espèce de poussière difficile à savoir ce que c'est, le cerveau ne comprendra pas. Nos sens ont été réglés souvent les capacités du cerveau. Nous sommes limités par notre espèce. Mais votre demande est bonne. Il est vrai que nous voyons le monde suivant nos capacités. Et pour le voir correctement, il faudrait un cerveau qui déconnecterait d'autres informations. Mais pour le moment, ce n'est pas possible.
Gallien lui dit « Et avec l'ordinateur ?»
L'enfant lui dit « Je vois ce que vous êtes pris par la recherche et que vous croyez aux nouvelles technologies. C'est aussi un très bon point. » « Oui, peut-être. Mais il faudrait s'efformer nos sens, le cerveau. Cela prendrait du temps. Et il faudrait peut-être y faire à la naissance avant que le cerveau ne soit formé. Mais pour le moment, c'est impossible.
Bien, je vous remercie, Monsieur Danfort. Vous pouvez vous retirer.
Bien, Monsieur le Président. Mais je penserai à tout ça.
Et Danfort se retire. Thank you.
Danfort a dans son bureau Riquin et lui dit
« Nous avons bien choisi l'élu et Dieu est bien dans son ADN. »
Riquin lui demande « Pourquoi cela ?»«
Parce qu'il pose des questions essentielles. Bientôt il sera mûr pour être vraiment l'élu, le chef. »
Riquin lui dit « Vous croyez qu'il va accepter certaines choses ?» Danfort lui dit
« Lorsque l'on a la passion de la science, la morale passe après. En tout cas, toujours chez nous. »
Riquin lui dit « Oui, pour les sept soleils, mais lui ?» Danfort lui dit
« Lui, c'est de nous. Et nous, c'est lui, la même chose. C'est l'élu, le remplaçant de Genetou. »
Fait des rêves étranges et voit Guillaume ensanglanté en terre dans le parc du château. Ses rêves font de drôles d'effets. Et puis il repense à cette histoire de fils de Genetou. Il risque peut-être de venir au château comme la veille la vieille femme et croire que Guillaume est l'élu et peut-être le tuer.
Il est au château, il lui dit
« Fais attention à toi, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. »
Guillaume lui dit
« Mais que veux-tu qu'il m'arrive ?»
Galien lui dit
« Je ne sais pas, peut-être cette histoire de fils de Genetou ?»
Guillaume lui dit « Je ne suis pas l'élu, c'est toi. »
« Oui, mais on peut te prendre pour moi ?» Comme la vieille femme, j'ai fait un rêve horrible où tu étais mort.
Guillaume lui dit,
ce n'est rien, n'y pense plus, ce n'est qu'un rêve.
Des rêves étranges. Il voit le monde d'une drôle de façon, déformé, trouble, ça bouge tout le temps. Les visages, les gens sont caoutchoutés. mou. Le sol est mou. La lumière passe par un brouillard, ou plutôt les rayons lumineux s'infiltrent dans un brouillard. Il entend constamment dans sa tête des ordres. Les gens lui crient après, lui courent après. Il se retrouve dans des rues sombres, mortes, sales. Il tombe dans un puits tout noir. Il se réveille. Il est sur un parking, un grand parking, comme ceux d'un supermarché, mais c'est en pleine ville et à Paris. Il est avec des personnes. Le parking semble abandonné. Il y a des bâtiments abandonnés. Au loin, on voit le Paris moderne. Galien demande à un homme la gare de Lyon. C'est ici. Il montre du doigt à gauche. L'homme lui dit, non, c'est là, c'est-à-dire de l'autre côté. Galien est dépité. Il se réveille en sueur, transpirant. Il ne sait pas pourquoi ce rêve l'a troublé. Il a trop chaud. Il a eu trop chaud toute la nuit. Il a même été obligé d'aller se lever pour ouvrir la fenêtre. Regarde l'heure à sa montre qui est sur la table de nuit. Il est 4h45. Il se souvient du début de son rêve et se dit qu'il a vu la vie comme elle devait être. Un très gros bouillonnement. Et qu'heureusement qu'on ne la voyait pas comme ça. Que c'est sûrement vrai que l'œil ne voit pas comme une caméra, mais comme une photographie. Comme un photographe qui prendrait des photos constamment pour fixer ce qu'il voit, pour permettre au cerveau de reconnaître des images qui sont constamment en mouvement. La vie humaine, c'est une succession de photographies très rapides qui fait croire, qui donne l'illusion du mouvement. Mais qu'est-ce que voulait dire la deuxième partie du rêve? Le parking. Mystère. Les jours passent. La culture dans le désert se fait bien et il reverdit si l'on veut, car il y a des tas de plantations de légumes surtout. Petits pois, tomates, melons, betteraves, etc., etc. Pommes de terre, carottes, etc. Raisins, pommes, pêches, poires et fleurs aussi. Le tout est planté au-dessus du sol. Pas dans le sable, sur du fil de fer. L'eau est amenée par des tuyaux qui suivent le fil de fer. Et dans l'eau, il y a du fortifiant, de la vitamine. L'eau, c'est de l'eau de mer filtrée par des bactéries qui enlèvent le sel. Et à côté, chez les champs, il y a des usines de mise en conditionnement. Ce qui fait que les produits agricoles du désert coûtent moins cher que ceux de l'Europe. Il faut moins de main-d'œuvre, il y a plus de place, c'est plus simple et l'eau n'est pas chère. L'Europe, la France, se trouve en difficulté car elle ne trouve plus à exporter ses produits alimentaires et même dans le pays même, les produits agricoles qu'ils produisent sont moins chers. Alors, créer encore plus de chômage,
les agriculteurs sont en faillite. Ils demandent des aides de l'État, de l'Europe, qui ne peuvent leur donner. C'est la faillite. Le désert se réveille. Les terres de la France et d'autres pays tombent en friche. Les agriculteurs en colère manifestent, font des bagarres, empêchent les camions de circuler, surtout les camions de produits agricoles. Ils mettent le feu aux produits d'exportation, arrêtent les trains, camions, avions, bloquent le pays. Le gouvernement, pour montrer qu'il est là, fait du zèle. Il envoie la police armée contre les agriculteurs. La plupart de ces hommes sont des mutants, des chimères. Ils ne connaissent qu'une chose, l'ordre qu'on leur donne. Et ils sont d'une force surhumaine, avec des sens ultra surpuissants et des organes spéciaux, tels que certains des ailes, des griffes, des muscles, des yeux à 380 degrés, à infrarouge, etc., etc. Ces policiers, ces soldats sont reliés à un central informatique qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Ils ont un émetteur et un récepteur à l'intérieur de leur corps qui relie directement au cerveau, à leur cerveau. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.